Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 13 décembre 2022. Avec vous, Eric Manirakidza, voici d'abord le sommaire. Première demi-finale du mondial qui a tout pour devenir légendaire. Argentine-Croatie oppose ce soir deux génies du football, Lionel Messi et Luka Modric, désireux d'aller au bout de leur histoire inachevée avec le tournoi. Score 0 but partout après 30 minutes de jeu, une ambiance exceptionnelle au stade de Lusail. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains participent à Washington dans le sommet de trois jours qui a débuté aujourd'hui.
Le président Biden se réjouit d'accueillir les dirigeants africains pour ce sommet.
Le Niger mobilise des anciens militaires et gendarmes à la retraite pour soutenir son armée contre les djihadistes. Au moins 55 morts ce mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par de fortes pluies. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa échappe à une procédure de destitution. Tous ont un rêve à accomplir à Doha, tous redoutent le mirage d'un échec si près du but. Quatre pays sont aux portes de la gloire ou du désert, selon qu'ils joueront le triste match pour la troisième place samedi ou bien la finale pour le titre le lendemain. Et pour chacun des quatre demi-finalistes, l'histoire serait belle à écrire. L'Argentine aimerait tant consacrer Lionel Messi comme le digne héritier de Diego Maradona. Je suis en ligne avec Tarsis Harimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du ballon rond. Tarsis, bonsoir.
Oui, bonsoir, ça s'anime puisque tout à l'heure, évidemment, l'Argentine allait marquer. Je pense que là, il y a un problème. Il y aura encore un carton jaune qui va être donné par l'arbitre. C'est en pénalty, on va le voir. Mais jusqu'à présent, il faut dire que les deux équipes, eh bien, c'est égal. Deux occasions manquées du côté argentin et du côté croate aussi. Et là, on voit bien sûr que l'équipe d'Argentine, est allée marquer. Mais ça doit être c'est probablement un pénalty, c'est le gardien qui s'interpose. Mais il faut dire que Messi tente d'organiser son camp au niveau de l'attaque que même au niveau du milieu du terrain. Et du côté, évidemment, croate, c'est un jeu, à mon avis, très agressif, marqué par un trio qui tente, évidemment, de déstabiliser la défense argentine, mais je crois savoir que l'arbitre actuellement est en train de consulter le VAR et il va décider en pénalty. Et c'est effectivement, je pense, c'est Messi qui va tirer son pénalty puisqu'il y a un attaquant argentin qui a été agressé dans la surface de réparation. C'est une ambiance folle avec beaucoup de spectateurs donc argentins. Et d'un côté, donc, je pense que l'équipe d'Argentine pourra marquer ce but. Messi, le Messi des Argentins, il est face au gardien croate et il observe le ballon et va bien sûr essayer de marquer de l'autre côté. On voit que vraiment
il a marqué, total, il a marqué, il vient total. De marquer,
il vient de marquer bien sûr sans problème et ça c'est la joie et voilà la joie de tout un peuple. Il reste à tenir, Eric, ce match qui est un match fou. Il faut tenir. Il ne faut pas laisser les Croates
revenir au score.
Croates, donc, ça, au niveau du milieu du terrain, dominer ce milieu du terrain et le reste va venir.
Oui, Tarsis, reste avec nous. Je suis également en ligne avec Karim Ben Armor, qui est journaliste sportif à Tunis. Karim, ce ne sera pas la 1001e nuit de Messi, mais bien le 1002e match de son immense carrière, couronné de tous les trophées possibles, sauf la Coupe du Monde.
Oui, mais il n'y a rien qui garantit, l'Argentine quand elle mène, rien ne garantit qu'elle termine vainqueur. La preuve, lors du quart de finale, elle menait 2-0 et s'est faite rejointe par les Pays-Bas en 10 minutes. La Croatie aussi, rappelons-nous ce scénario fou, elle était menée pratiquement à la 116e minute, quelque chose dans ce genre, au niveau de, et alors que tout le monde croyait que le match était plié, la Croatie est revenue et a égalisé. Donc, ce qui s'est passé là actuellement avec le but de Messi sur penalty ne fait que lancer les hostilités et on doit s'attendre maintenant à un match complètement fou avec le milieu de terrain croate qui va essayer de remettre de l'ordre dans la maison et égaliser. Et voilà, donc maintenant, tout est possible.
Tarsis a 35 ans et 37 ans respectivement, le vibrionnant gaucher argentin, donc Messi, et le croate au pied droit de velours, c'est Luka Modric, savent que c'est probablement leur dernière chance de consécration planétaire et qu'une défaite soldérait leur carrière en Coupe du Monde, voire en sélection en quelques secondes.
Oui, surtout qu'ils sont dans des clubs qui font des gros championnats en Europe. Et là, je pense que pour Messi, c'est vraiment le dernier match de sa vie. Et c'est une phase finale agréable. Et attention, c'est un champ de bataille semé d'embûches et d'obstacles qu'il faut éviter ou franchir avant le dernier assaut. Le premier assaut a été fait par Messi, mais c'est un combat technico-tactique opposant Scaloni à Dalic.
Karim, dans un tournoi ouvert aux surprises, bien malin qui pourrait désigner un favori et prédire quelle sera la morale de l'histoire, l'Argentine, à chaque fois qu'elle a atteint les demi-finales, elle est allée jusqu'au bout en finale.
Oui, mais la Croatie, je crois, elle aussi, elle a déjà disputé 3 demi-finales avec, je crois qu'une fois elle n'est pas passée en pénalty, avec 2 finales de rang. Donc la Croatie est une équipe qui est très 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 solide et bien malin celui qui réussira à connaître le résultat du match là actuellement. Moi je suis sûr et certain que l'on va assister à une rencontre de ce qu'il y a de plus folle et équilibrée et donc voilà, ça sera pas l'avantage au premier qui va marquer mais à celui qui va tenir le bout jusqu'à la 90e minute ou à la 120e si c'est.
Merci Karim, merci Tarsis pour vos analyses. Nous attendons bien sûr le coup de sifflet final après les 90 minutes pour savoir l'équipe qui jouera la finale de cette Coupe du Monde Qatar 2002.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Longtemps accusés d'ignorer l'Afrique, les États-Unis déroulent le tapis rouge à Washington pour des dizaines de dirigeants africains. Washington veut mettre les bouchées doubles face notamment à la concurrence chinoise. Les États-Unis se sont engagés dans une offensive de charme pour séduire des partenaires africains, parfois réticents et mettre la main au portefeuille, prêts à consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique sur 3 ans, selon la Maison-Blanche. Ces fonds seront en particulier consacrés à la santé et à la réponse au changement climatique, a souligné ce lundi le porte-parole, le conseiller présidentiel Jack Sullivan. La répartition sera dévoilée dans les jours à venir. Il a assuré que ces financements et plus généralement l'engagement américain ne seraient pas liés à l'attitude des pays africains face à la guerre en Ukraine. L'Argentine vient de marquer un second but. Je suis en ligne avec notre envoyé spécial Abdulrahman Dia qui se trouve au Convention Center où le sommet a ouvert ses travaux ce matin. Abdulrahman, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Les États-Unis cherchent à être le partenaire envers lequel on se tourne en premier en Afrique, n'est-ce pas? Que retenir du déroulement de ces assises?
Alors, le programme de la première journée vous donne une idée, Eric, de la stratégie américaine pour l'Afrique, pour les années à venir. Une stratégie qui a d'ailleurs été dévoilée au mois d'août par le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Anthony Blinken qui était là ce matin, justement, au forum des jeunes leaders africains et de la diaspora, des jeunes africains et de la diaspora, sur qui l'administration Biden compte justement pour asseoir sa stratégie en termes de formation, une formation qui bénéficierait aussi bien à l'Afrique qu'aux États-Unis, comme il l'a si bien dit. Et Anthony Blinken a bien rappelé, par exemple, que sur le programme de soutien aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, il y a quelques 5400 femmes qui ont bénéficié de ce programme depuis 3 ans, depuis sa mise en place. Et également Anthony Blinken qui a rappelé que les États-Unis vont annoncer dans les jours qui viennent de nouveaux programmes qui permettraient de faciliter, disons, les programmes d'échange des étudiants pour que la formation des étudiants puisse se poursuivre. C'est un peu donc pour vous dire que les États-Unis s'appuient beaucoup sur cette jeunesse pour asseoir sa position et se faire comprendre sur le continent avec plusieurs milliards de dollars sur la table. Alors ce matin, je me suis entretenu avec le porte-parole en français du département d'État, Yohann Schmonsis, que je vous propose d'écouter.
Le président Biden se réjouit d'accueillir les dirigeants africains pour ce sommet, pour souligner la valeur que les États-Unis accordent à leur collaboration avec l'Afrique pour relever les défis et pour saisir les occasions les plus urgentes à l'échelle mondiale et régionale.
Et au-delà de ces questions sécuritaires et de l'investissement, qu'est-ce que les États-Unis attendent du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique?
Les 3 objectifs principaux du sommet sont d'approfondir et élargir les relations diplomatiques entre les États-Unis et les pays africains, d'amplifier les voix africaines dans ces relations et dans leur propre avenir, et pour mobiliser le gouvernement américain, toutes les agences, et aussi le secteur privé et la société civile pour traiter les problèmes les plus concernants actuels.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Abdou, vous avez recueilli les propos de ce porte-parole. Et qu'est-ce qui est prévu pour la journée de demain?
Pour la journée de demain sera une journée très importante puisque le président Joe Biden sera ici pour participer au Forum des affaires États-Unis-Afrique, un forum durant lequel on attend la signature de plusieurs accords entre entreprises américaines et africaines, mais également entre, disons, au niveau gouvernemental aussi bien. Donc, c'est une journée extrêmement importante. Je dois signaler que cet après-midi, il y a un forum assez intéressant également qu'il faut suivre sur la sécurité et la gouvernance. La sécurité étant également un des points importants que les États-Unis veulent mettre en exergue dans leur coopération avec les pays africains, Eric.
Merci Abdou pour toutes ces précisions. Le sommet de Washington intervient dans le sillage d'une nouvelle stratégie Afrique dévoilée l'été dernier et annonçant une refonte de la politique des États-Unis en Afrique subsaharienne pour y contrer la présence chinoise et russe. Le président américain, qui ne s'est pas encore rendu en Afrique subsaharienne depuis le début de son mandat, doit intervenir, vous l'avez suivi, demain et jeudi devant le sommet. Il va plaider en faveur d'un rôle accru pour l'Afrique sur la scène internationale avec un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et pour que l'Union africaine soit formellement représentée au G20. La diplomatie américaine s'attend aussi à une discussion robuste sur une loi de l'an 2000 sur la croissance en Afrique, liant la levée de tarifs douaniers au progrès démocratique qui arrive à échéance en 2025. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains participent dans ce sommet de 3 jours, le second du genre après celui organisé il y a 8 ans, en 2014, sous la présidence de Barack Obama. 43 minutes de jeu dans cette première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie. 2-0, le but sur pénalty de Lionel Messi et Alvarez qui a assommé le gardien croate. Eh bien, Lionel Messi rejoint Kylian Mbappé à la tête des buteurs dans son mondial, chacun avec 5 buts sur son compteur. Eh bien, le match est très intense. On voit des Argentins qui poussent, qui veulent absolument assommer cette équipe croate, je rappelle, qui a joué plusieurs prolongations, qui doit être usée physiquement. On attend la fin de la première partie et la seconde partie, on le saura, qui sera le candidat à la finale de dimanche.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. La loterie de la carte verte, officiellement connue sous le nom de loterie des visas de diversité, est un programme du département d'État américain qui alloue chaque année 55 000 visas de résidence permanente à personnes originaires des pays ayant un faible taux d'immigration aux États-Unis. Un ordinateur tire au sort les heureux gagnants qui sont alors autorisés à s'installer légalement ici aux États-Unis. Thierry Kaoré a rencontré une famille originaire du Burkina Faso qui s'est installée à New York grâce à son programme. Son reportage.
Chaque année, au début du mois d'octobre, le site du Bureau des affaires consulaires du département d'État américain ne désemplit pas. Ils sont des milliers à y tenter de décrocher le fameux sésame de la carte verte afin de s'installer ici aux États-Unis. Et c'est en 2011 que la chance a souri à M. et Mme Diarra du Burkina Faso alors qu'ils venaient juste de célébrer leurs noces. Mariam Diarra explique.
Quand il a gagné, après le mariage, il devait faire 1+1. Bon, comme on était déjà mariés, il était autorisé à ajouter mes dossiers sur ce truc pour que je puisse venir avec lui. Et c'est comme ça, on a fait les dossiers, les documents, tout et tout pour arriver, pour qu'on puisse venir ici.
En 2013, Mariam atterrit à New York et s'installe dans le Bronx, un quartier où l'on retrouve beaucoup d'immigrés africains. Pas de barrière linguistique, elle s'adapte facilement à sa nouvelle vie new-yorkaise.
Je me débrouillais déjà un peu en anglais puisque j'ai fait l'anglais à l'université, j'ai eu le doc 2 en anglais à l'université. Donc quand je suis arrivée ici, Dieu merci, j'avais des béninois qui étaient avec moi, qui partaient déjà à l'école et elles m'ont montré CUNY, le site de CUNY, d'aller pour l'application de l'université. Je suis rentrée, j'ai fait l'application, ils ont demandé les dossiers et on a fait venir mon transcript de l'université de Ouaga, tout ça. Et ils m'ont accepté à l'université. Ce qui est bien dedans, c'est que je n'ai pas payé 5 francs.
Quelques années plus tard, elle sera rejointe par son époux. Une famille ainsi réunie, avec 2 enfants nés sur le sol américain. Monsieur Diarra dit que le choix de s'installer aux États-Unis faisait partie de ses objectifs.
Une fois que tu as décidé de tes objectifs de vie et que tu sais que ton environnement ne peut pas t'offrir ça, il faut le faire et c'est vraiment le moyen légal pour immigrer surtout aux États-Unis ici. Elle est dire légalement et comme elle l'a dit, avoir tous les avantages, toutes les opportunités, sauf que tu n'as pas le droit de vote jusqu'à ce que tu obtiennes le passeport.
Comme le programme le prévoit, 5 ans après son arrivée, Mariam Diarra a obtenu la nationalité américaine et son mari est également en phase de devenir citoyen américain. C'est la nouvelle phase d'une vie en changement et le rêve américain qui se réalise pour cette famille.
La diaspora camerounaise représente aujourd'hui plus de 6 millions de personnes selon les autorités du pays. En majorité hautement qualifiée, peu mettent leurs connaissances au profit de leur pays d'origine, ce qui fait du Cameroun l'un des pays africains concernés par le phénomène de fuite de cerveau. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Juntap.
À Yaoundé, les jeunes étudiants pointent un doigt accusateur sur les tards du continent comme principale cause du phénomène de fuite des cerveaux africains.
Pour accéder dans un boulot ici en Afrique, il faut soit avoir quelqu'un au pouvoir, soit avoir les moyens. Et quand tu n'as pas, même si tu es intellectuel, tu ne peux pas accéder au travail.
Ce phénomène est dû à la corruption qui sévit dans le continent africain, aux mauvaises conditions de vie, à la pauvreté, etc.
À ces raisons, ce jeune chercheur ajoute celles liées à l'histoire des relations entre l'Afrique avec le reste du monde. Un cours de l'histoire défavorable au continent noir.
Ceux qui viennent chercher en Afrique ne recherchent plus simplement la compétence physique, ils sont aussi désormais à la recherche de l'intelligence, qu'on appelle la smart intelligence. Et ça, on a compris que c'est l'intelligence, c'est les idées qui gouvernent le monde.
Le Cameroun est l'un des pays africains qui a une diaspora diversifiée et bien formée. En 2019, le gouvernement a organisé le premier forum de la diaspora camerounaise en vue d'encourager le retour au pays. Mais cette incitation n'a pas encore atteint les résultats escomptés.
Je pense, pour ma part, qu'il y a plusieurs choses à faire. L'une des choses, c'est d'abord les conditions salariales qui constituent pour ces locaux-là la principale raison de leur émigration. Il faut également travailler sur la gouvernance locale. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un chercheur au Cameroun n'a pas véritablement accès à la documentation dont il a besoin pour mener sa recherche.
D'après ce diplomate, les grandes puissances et les pays occidentaux doivent aussi jouer franc jeu avec leurs partenaires africains pour stopper la saignée des cerveaux.
Il faut donc un nouveau partenariat. Cela en impulsant, par exemple, des appuis au niveau de l'équipement, par exemple, des universités africaines, avec des incubateurs, avec des partenariats donnant beaucoup plus de possibilités en échange d'expertise.
Après avoir suivi un cycle de formation de 7 ans, que des médecins ne soient pas intégrés et qu'ils aient à passer un concours encore pour pouvoir être intégrés.
Le Cameroun a lancé cette année une étude en vue de la création d'un fonds d'appui au financement des jeunes de la diaspora. Emmanuel Jumdap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Depuis quelques mois, les Béninois se familiarisent avec les motos électriques. C'est une initiative de la société M-Auto, basée au Togo et financée par un fonds souverain indo-africain. Parvenir à créer des emplois et la richesse par des solutions de développement respectueuses de l'environnement, c'est le but visé par la société M-Auto. Comment ces motos sont-elles accueillies au Bénin? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Présente dans la zone Afrique de l'Ouest depuis quelques mois, la société M-Auto s'est hissée comme la première plateforme de mobilité électrique en Afrique. Alain Point est conducteur de taxi-moto. Il fait partie de ceux qui ont été choisis pour les tests effectués. L'expérience paraît concluante à son niveau.
Vous voyez, c'est les motos que vous voyez. On n'a pas de chaîne, ni couloir, ni bougie, et ni piston et autres. Donc on a voir tout cette dépense qu'on faisait sur les autres motos avec ceci, c'est un peu différent.
Blaise Sadio est un indépendant qui a une boutique de téléphonie mobile. Pour lui, les motos électriques n'ont rien à envier aux autres.
C'est une moto qui facilement passe à 80, 85, 89. J'ai pas pu excéder, même avec sur le goudron, les 89. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le sans bruit et la facilité de rouler ça. Quoi.
Selon Tchegon Bakari, le directeur général de M-Auto, 2000 véhicules électriques ont été mis en circulation entre Cotonou et Lomé. Ces véhicules, selon lui, ont déjà parcouru une distance de 2,5 millions de kilomètres sans la moindre émission de gaz et de fumée. Il souligne que la réaction des consommateurs est la preuve qu'ils attendaient des solutions respectueuses de l'environnement, efficaces et abordables.
Tout le monde parle de transition écologique. Nous, on a voulu apporter une solution qui soit une solution économique, mais qui réponde aussi aux besoins écologiques. Alors, l'impact écologique, il est direct. Hein. Vous savez, quand vous prenez une moto thermique aujourd'hui, en termes d'émissions, elle émet énormément. Au-delà de l'émission de carbone, en fait, il y a aussi tout ce qui est émission de particules fines. Et donc, tout ça disparaît lorsqu'on passe à l'électrique, en fait.
Une moto offre des facilités à tous ceux qui veulent passer à l'électrique à travers des paiements échelonnés.
Ces personnes dépensent aujourd'hui énormément d'argent et nous pensons, nous leur proposant, en fait, en passant à l'électrique, de pouvoir gagner 30 à 40% de plus par jour et donc de réduire la pauvreté.
Avant la mise en service de ces motos, il y a eu la signature d'un protocole d'accord entre la société M Automobility et le gouvernement béninois. Présente à la signature du protocole d'accord, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, a réitéré l'intérêt du gouvernement à ce projet.
Bienvenue au Bénin dans cette nouvelle zone économique et sociale qui concrétise l'écriture d'une nouvelle page industrielle dans notre pays.
Mais quel avenir pour ces motos dans un pays en proie à des perturbations électriques? Environ 30 centres de recharge sont déjà mis en place. Selon les prévisions, d'ici fin 2022, 300 centres de batterie seront créés afin de permettre à tous ceux qui désirent faire de la mobilité électrique de pouvoir charger leur batterie à tous les kilomètres. Pour l'heure, les motos viennent en pièces détachées et sont assemblées dans une usine. Mais d'ici 2024, elles seront entièrement fabriquées à Cotonou. L'usine est en pleine construction dans la zone industrielle de Cotonou, Gilles Fleur dans les Pouvéo Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Washington est le lieu de convergence des leaders politiques, économiques et de la société civile africaine et américaine pour passer au crible des relations entre le continent et l'Amérique. La démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et l'investissement, autant de thèmes au menu de ce sommet est remis au goût du jour par l'administration Biden après une pause durant les années 30. Nous ferons l'état des lieux et discuterons avec nos invités de l'avenir des relations États-Unis-Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
À Dir Dawa, dans l'est de l'Éthiopie, les voyageurs utilisent toujours le chemin de fer franco-éthiopien construit il y a plus d'un siècle par les Français. L'ancienne voie ferrée reste indispensable pour le commerce et le transport, même avec l'arrivée récente d'une ligne moderne construite par la Chine. Deux fois par semaine, des passagers et des marchandises s'entassent dans des wagons datant de 1955 pour effectuer le long voyage de Dir Dawa à Dewele, à la frontière djiboutienne. Les détails avec Dili Diko.
Des grincements métalliques que l'on entend à près d'un kilomètre. Le train centenaire arrive à l'aube et fait trembler la gare de Dir Dawa. Ce chemin de fer, construit par les Français en Éthiopie il y a plus de 100 ans, et ses wagons de 70 ans restent indispensables pour les habitants. La locomotive diesel tracte 4 wagons de marchandises en bois et 2 voitures voyageurs sans éclairage électrique. Ces conditions de voyage précaires ne découragent pas les personnes qui vivent ici. C'est grâce à ce train qu'elles peuvent subvenir à leurs besoins. Ayoub Assofa, directeur de la station de Chénélé, nous en dit plus.
Si ce train s'arrête, le prix des marchandises va augmenter. Les gens peuvent se permettre de vivre ici parce qu'ils trouvent des marchandises comme les pâtes, l'huile et le sucre qui arrivent ici par train.
Mulugeta Kebede, 70 ans, conducteur du train centenaire depuis 4 décennies, ajoute que plusieurs villes ont été créées autour de cette ligne ferroviaire, dont seuls 200 km sur 784 sont encore praticables.
Le chemin de fer a été construit le long des petites villes et des quartiers, et les gens se sont installés à proximité des gares. Il y a encore des endroits où les voitures ne peuvent pas aller.
12 heures de trajet sur des banquettes en bois, une centaine de passagers avec leurs bagages, des marchandises allant de l'est de l'Éthiopie à Dewele, à la frontière djiboutienne. Ici, à Dir Dawa, certains ne sont pas convaincus par le train des Chinois, comme ils l'appellent. Plus cher, il ne s'arrête que dans 3 gares entre Dir Dawa et Dewele, contre 8 pour le train centenaire. Ismaël Kayad, directeur adjoint de la gare de Dir Dawa, explique que les autres moyens de transport sont exclus pour ce tronçon. Il fait partie des rares cheminots qui parlent encore français.
Par rapport au chemin de fer chinois et Arsi, il n'alimente pas les villes directement. Il part de Djibouti, il s'arrête à Galilée, puis les gens disent... l'ancien chemin de fer est béni. L'autre, c'est un avion. Avion.
Les travaux du CFE, le chemin de fer franco-éthiopien, commissionné par l'empereur Ménélique, ont commencé en 1897 à Djibouti, alors appelée Côte française des Somalies. La ligne a atteint Diredawa à Noël en 1902, puis Addis Abeba à l'été 1917. Aujourd'hui, cette partie du trajet n'est plus qu'un lointain souvenir.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Michel Claire-Joseph et à Joselle Morissin pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Eric Manilakidza a été avec vous à la présentation. Ici va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.